Deuxième âge. L'âme enfant. Le second âge de l'âme, m'a dit, est celui où l'on comprend que l'on ne vit pas seulement pour soi. Les autres comptent, pèsent. L'âme doit apprendre à dépasser ses pulsions, ou au moins les contrôler, à ruser, jouer, tricher, séduire, aimer. 2. L'installation. Bienvenue à Murol.
Chapitre 5. J'ouvre en grand les volets de mon cabinet médical. Pleine vue sur la chaîne des puits, le château de Murol perché sur la colline la plus proche et la ligne de crête du Sancy qui ferme l'horizon. Aussitôt les volets repoussés, le soleil se précipite dans la pièce, comme s'il recherchait lui aussi la fraîcheur des vieilles pierres de granit. Je ne m'attendais pas à un tel accueil. Pendant 6 mois, avant de déménager en Auvergne, je m'étais préparée aux gris, aux horizons bas, aux routes enneigées, aux caniveaux trempés, aux pierres froides des maisons et aux toits fumants, aux rues désertes, aux écharpes et aux bonnets, aux vies calfeutrées. C'est tout l'inverse depuis que je suis arrivée. Jamais de mémoire d'Auvergnat, ils n'ont connu un hiver si doux. 15 degrés en plein mois de février, plus de 25 sur les faces ensoleillées des volcans. C'est à peine si les pare-brises parviennent à geler le matin. Mon cabinet médical se situe en plein centre de Murol, à 2 pas du pont de lave qui enjambe la Couze Chambon. Dans les rues du village, ce n'est pas l'animation de la rue Gambetta à Saint-Jean-de-Luz, mais ce n'est pas une ville fantôme non plus. Entre les touristes privés de ski qui s'égarent ici, les randonneurs en randonnion, les élèves bruyants qui sortent de l'école et réveillent les petites vieilles, aussi engourdies par le soleil que les chats endormis derrière les rideaux de dentelle. Je suis installée à Murol depuis 3 semaines et je ne regrette rien. 3 ans qu'ils attendaient un médecin. J'ai été acceptée comme si je revenais d'Amérique avec des lingots d'or à distribuer. Tout le monde a défilé dans mon cabinet. La mère, l'institutrice, le plombier, le boucher, le gardien du petit musée. Tous m'ont rassurée. Ici, il y a du monde toute l'année. Tous m'ont félicitée quand ils ont vu que je ne comptais pas mes heures. Tous m'ont proposé leur aide, que je n'hésite pas à demander. Ici, si on accepte d'ouvrir sa porte ou de frapper à celle des autres, on ne reste pas seul longtemps. Merci les amis, mais je ne suis pas seule. J'allume mon ordinateur. Je vérifie le programme de la journée sur Planio, l'application de réservation des consultations. Tout se fait par Internet aujourd'hui, même au cœur de l'Auvergne, plus besoin de secrétaire. Je lis distraitement la liste des patients, en plissant les yeux pour lutter contre le soleil qui s'amuse à éblouir l'écran. Avant de les ouvrir grand, 2 billes exorbitées. Je m'efforce de contrôler l'excitation qui me saisit, de souffler, de mieux respirer. Je savais que le temps travaillerait pour moi. Je suis le seul médecin dans un rayon de 10 kilomètres. Il fallait juste attendre, avec patience, qu'ils viennent à moi. Tout ce que j'ai entrepris depuis 6 mois, quitter la Normandie, traverser la France, m'installer au moulin de Chautefour, ouvrir ce cabinet n'avait qu'un but, que la rencontre se produise. Ça ne m'empêche pas de trembler de surprise. Mélanie Pelat, 9 heures. Gérard Fraisse, 9h15, Yvette Maury, 9h30, Tom Fontaine, 9h45.
C'est à vous, madame.
Il est 9h55, un retard raisonnable pour ne pas donner l'impression d'avoir expédié mes patients précédents. 10 minutes supplémentaires, pourtant insupportables. Entrez, je vous en prie. Amandine Fontaine pose son « Vivre bio hors série spéciale montagne » sur la petite table de la salle d'attente, se lève et entre avec Tom. Je ferme la porte derrière elle. Nous voici tous les trois dans le secret de mon cabinet. J'ai hésité, quand Tom est passé devant moi, à ébouriffer ses cheveux blonds, à poser une main sur son épaule, à caresser sa joue. Je ne l'ai pas revu depuis juin dernier. Il porte un jean trop usé, un pull en laine écrue fatigué, des habits trop grands pour lui, mal repassés, rien à voir avec les vêtements de marque d'Esteban. Pourtant, Jamais Tom ne lui a autant ressemblé. Je me suis préparée. J'ai répété cette consultation plus de 100 fois dans ma tête. Je ne dois pas me laisser troubler. Un bureau nous sépare. Tom lorgne de côté vers la bonbonnière, la récompense des petits patients qui ont été très courageux. Je me tourne directement vers lui, comme si Amandine n'existait pas. Ce n'est même pas une stratégie. Avec les enfants, je procède toujours ainsi. Je préfère d'abord les entendre me décrire, avec leurs mots, les symptômes de leur maladie, avant que leurs parents ne s'en mêlent. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, bonhomme ? Tom me fixe avec ses deux grands yeux bleus océan, surpris que je m'adresse à lui. Ce regard, mon Dieu, ce regard. Amandine aussitôt réagit.
Rien, affirme-t-elle. C'est fini, il est guéri. Tom a raté l'école pendant 3 jours, il toussait trop pour y aller. Gorge irritée, nez qui coule, il sait pas se moucher, enfin vous voyez. Mais là, c'est terminé.
Pourquoi venir voir un médecin si la maladie est passée ? Elle ne me laisse pas le temps de l'interroger.
J'ai juste besoin d'un certificat médical, pour l'école. Sinon, ils vont me faire tout un sketch pour les jours qu'il a ratés. Aujourd'hui, c'est le dernier jour avant les vacances de février.
Amandine me dévisage avec une intensité anormale. J'accroche à mes lèvres un sourire professionnel. Est-il possible qu'elle m'ait reconnue ? Je me suis coupé les cheveux avant d'arriver à Murol. Je porte des lunettes quand je consulte, elle ne m'a jamais vue avec. Comment pourrait-elle faire le rapprochement entre la nouvelle médecin du village et cette femme entreaperçue sur la plage de Saint-Jean-de-Luz il y a 6 mois pendant 3 jours, 3 jours où elle n'a pratiquement pas levé les yeux de ses magazines ?
Je vais être claire, poursuit Amandine. Je suis pas trop, comment vous dire, médecine, médicaments, labos, vaccins et tous ces trucs-là. Je préfère soigner Tom moi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Du préventif, du bon sens, des méthodes naturelles.
Je souffle. Soulagée. Ce n'est pas de moi qu'elle se méfiait, mais du système médical en général. Je suis habituée, c'est de plus en plus fréquent chez les jeunes mamans. L'automédication. 2 ou 3 livres spécialisés, un site internet, quelques forums, et elles ont l'impression d'avoir fait 3 ans d'internat.
Au moins vous êtes franche.
Amandine me rend mon sourire. Elle est déjà prête à se lever. Elle le fera dès qu'elle aura son papier.
Mais je vais être franche aussi.
Le sourire d'Amandine Fontaine s'est immédiatement refermé. Tom braque toujours ses yeux sur la bonbonnière.
Je ne peux pas vous délivrer un certificat médical sans examiner votre fils. Désolée, ce n'est pas négociable.
J'ai essayé de trouver le juste dosage entre amabilité et fermeté. Amandine grimace, hésite. Est-elle capable de prendre la main de Tom et de s'en aller ? Je décide de continuer à m'adresser directement à lui.
Je ne vais pas te faire de mal, bonhomme. Juste un petit examen de routine.
Comme si l'affaire était entendue, je m'avance pour l'ausculter. Amandine hésite encore à me laisser approcher. Est-ce son instinct maternel qui la pousse à se méfier ou a-t-elle quelque chose à cacher ? Je devine qu'elle ne me laissera pas toucher Tom, qu'elle va se lever pour s'interposer, mais elle grimace soudain, clouée sur sa chaise par une douleur intense dans le ventre. Et si c'était elle, pas son fils, qui avait besoin d'un médecin ?
Tom n'est jamais malade,
parvient-elle à articuler en masquant maladroitement sa souffrance.
Il n'a pas vu un médecin depuis 2 ans.
Eh bien, on va rattraper le temps perdu.
Allez, mon garçon, monte sur la table.
Mon enthousiasme et ma détermination l'emportent. Je me contente pour commencer d'examiner la gorge de Tom, ses oreilles, son nez. Je confirme, il présente tous les symptômes d'une laryngite bénigne. L'inflammation est pratiquement résorbée. Amandine a au moins raison sur ce point, Tom n'a pas besoin de médicaments.
Parfait, mon grand. Tu pourras même aller à l'école cet après-midi si tu en as envie.
Le visage de Tom s'élargit d'un grand sourire. C'est celui d'Esteban. C'est celui de mon petit prince. Je réalise qu'à chaque fois que je pose mes yeux sur ce garçon, que mes mains le frôlent, que j'examine sa gorge, que je presse sa poitrine, je descends un peu plus dans un enfer d'où je ne pourrai jamais remonter. J'ai l'impression de toucher la peau d'Esteban, de respirer l'odeur d'Esteban. Je n'ai pas le choix pourtant. Je dois m'enfoncer plus loin dans les limbes. Si mon fils y est enfermé, je dois aller le chercher.
Reste assis sur la table, bonhomme. Ce n'est pas encore tout à fait fini. Tu peux retirer ton pull et ton t-shirt ?
Tom obéit. Amandine n'a rien dit.
Est-ce la douleur au ventre qui l'a terrassée? Est-ce mon autorité? Est-ce qu'après tout, elle n'a aucune raison de s'opposer à ce banal examen? Je palpe les omoplates de Tom, ses côtes, son ventre, ses genoux, ses coudes et ses poignets. J'ai la sensation que mes doigts vont s'enflammer. Un conflit insoluble explose dans ma tête entre la raisonnable docteur Maddy Libéry et l'inconsolable maman d'Esteban. La médecin que je suis essaye de réfléchir en professionnel expérimenté. J'ai ausculté des centaines d'enfants de 10 ans, et je sais qu'en majorité, ils possèdent tous la même morphologie, le même poids, la même taille, à quelques kilos et centimètres près. Même silhouette filiforme en tige de marguerite, même jambes maigres et toniques, même biceps plats dont on fait le tour avec 2 doigts. Et pourtant, la maman d'Esteban que j'étais n'abandonne pas. La mémoire de mes mains ne ment pas. Je sais reconnaître le corps de mon enfant.
Parfait, mon grand. Maintenant, allonge-toi. Je vais baisser un peu ton pantalon, ne t'inquiète pas.
Je desserre la boucle de son ceinturon. Je fais sauter un premier bouton. Amandine réagit cette fois.
Vous lui faites quoi ?
Rien de spécial, je contrôle sa puberté.
Tom a 10 ans.
Justement. Amandine n'ose pas me contredire frontalement. Elle doit repenser aux sites médicaux sur lesquels elle a surfé, aux cas de puberté précoce, aux garçons qui deviennent des petits hommes. Ça me laisse le temps de continuer. Je fais sauter 3 autres boutons. J'écarte le pantalon. Je baisse un peu, à peine 1 centimètre ou 2, le boxer bleu. Ma main s'est pétrifiée. C'est impossible. Strictement, logiquement, médicalement impossible. Et pourtant, je savais, avant même d'examiner Tom, qu'elle serait là. Bien au chaud, bien cachée. Comme une preuve intimement dissimulée, mais impossible à effacer. L'angiome est parfaitement dessiné, en forme de goutte d'eau, telle une larme écarlate coulant sur l'aine droite de Tom, la même que celle d'Esteban. Sa marque de naissance. Une marque impossible à falsifier. Tom est toujours allongé. Je ne l'ai pas invité à se relever, à se rhabiller. Toutes mes certitudes basculent. Je pouvais admettre une ressemblance physique. Je pouvais admettre, à la limite, un même maillot de bain, la même plage, mais cette tache. Comment admettre qu'elle soit due au hasard, à la grande loterie de la génétique? Suis-je en train de devenir folle, victime d'une hallucination? Mes doigts ne cessent de toucher avec délicatesse la marque brune. Amandine se tient à côté de moi, impatiente qu'on en finisse avec cet examen. Je me retiens de la bombarder de questions. Qui est le père de Tom? Pourquoi portait-il ce short indigo? Pourquoi est-elle venue en vacances à Saint-Jean-de-Luz? Il y a forcément une explication. Dès qu'Amandine s'avance, sans doute pour signifier qu'elle en a assez, que l'examen est terminé, je bafouille la seule question que je peux lancer sans me trahir. J'écarte un peu plus le boxer, en ordonnant à chacun de mes doigts de ne pas trembler. Cet angiome, cette tache de naissance, si vous préférez, quand est-elle apparue?
À votre avis, c'est une tache de naissance, non?
Amandine m'observe encore avec méfiance. Elle a repris l'avantage. Pourquoi ai-je posé une question aussi ridicule? Je dois gagner du temps pour examiner en détail cette marque. Je dois trouver une autre question. Je touche une nouvelle fois la tache sombre et je fronce les sourcils, comme si quelque chose m'inquiétait. Si je l'observe avec précision, je dois reconnaître qu'elle n'est pas strictement similaire à celle d'Esteban. Elle est un peu plus claire, un peu moins développée. Mais je sais aussi que les angiomes évoluent, surtout lors de l'enfance, et qu'ils finissent par se résorber dans 80% des cas. Je perçois la peau chaude de Tom au bout de mes doigts. Le garçon ne bouge pas, aussi sage et réfléchi qu'Esteban l'était. Occupé à tout observer, analyser, sans rien dévoiler de ses pensées. À la limite, cette tache sombre pourrait être une trace de brûlure qui remonterait à de nombreuses années. Mais pour quelle raison avoir mutilé cet enfant à cet endroit précis? Ma délirante supposition me fournit au moins l'idée d'une nouvelle interrogation.
Cette marque, vous êtes certaine que Tom ne s'est jamais brûlé?
Amandine hausse le ton.
Je m'en souviendrai. Qu'est-ce que vous insinuez? Que mon fils aurait eu un accident et que je ne serais pas au courant?
Elle avance de 3 pas et me pousse sans ménagement.
C'est bon, Tom, ordonne-t-elle. Tu peux te rhabiller.
Elle a produit un effort trop intense. Elle se tient à nouveau le ventre, comme si on l'avait frappée avec violence. Elle se retient à la table, cherchant à reprendre sa respiration. « Tout va bien, Madame Fontaine ?» Elle ne répond pas. Mélange de colère, de gêne et de douleur. J'en profite pour m'adresser à Tom. « Et toi, cette tâche, tu en penses quoi ?» Les yeux du garçon oscillent entre les miens et ceux de sa maman.
« Je l'ai toujours eue. »
« Tu n'as aucun souvenir d'un accident ? Une brûlure ? Quelque chose qui t'aurait fait très mal, même quand tu étais petit ?»«
Non, non. »
Amandine a retrouvé son souffle et aboie.
« Et vous cherchez quoi, docteur ? Méfiez-vous, ici on fouille pas dans la vie des gens. Tom et moi, on a appris à se débrouiller seuls. Je n'ai pas de conseils à recevoir, surtout en ce qui concerne ma santé et celle de mon fils. J'ai peut-être lu plus de magazines médicaux que vous, alors vous voyez ?»«
Je vois. »
Tom se rhabille, se relève. Je pousse le défi jusqu'à ébouriffer ses cheveux blonds au moment où il passe devant moi. Je n'ai pas pu résister. J'ai ressenti une nouvelle bouffée d'émotion, une ligne de drogue dure que j'aurais respirée, la sensation de retrouver un geste naturel, cet instantané de bonheur chaque fois qu'Esteban s'approchait de moi pour quémander une marque de tendresse. À bientôt, bonhomme. Amandine me fusille des yeux.
Je vous dois combien, docteur ?
Elle est une nouvelle fois terrassée par une douleur abdominale que sa fierté ne parvient pas à masquer. Elle s'assoit tout en sortant son portefeuille.
« Docteur ?»
C'est Tom qui a parlé, d'une petite voix timide.
« Docteur ?» répète-t-il. « Pendant les vacances, je pourrais aller à la piscine ?»
J'avais presque oublié la plage de Saint-Jean-de-Luz. Tom est un excellent nageur, autant que l'était Esteban. Esteban passait toutes ses vacances scolaires d'hiver à la piscine et celle d'été à la mer.
Oui, mon grand, tu es guéri, pas de souci.
Je me tourne vers sa mère, au moment précis où elle me tend un billet. Par contre, vous ne l'êtes pas, Madame Fontaine. Laissez-moi juste vous ausculter. Ça ne vous coûtera rien de plus et...
Docteur, avec tout le respect que je vous dois, mêlez-vous de ce qui vous regarde.
Un lourd silence envahit mon cabinet, le temps que je lui rende sa monnaie. Tom lorgne toujours le bocal de bonbons sur mon bureau. Sa mère ne va quand même pas m'interdire de lui en offrir un.
« Tu veux un bonbon au miel ?»
Tom retire immédiatement sa main, se recule et se réfugie dans les bras de sa mère, comme si je lui avais proposé d'avaler du venin de vipère. Ses yeux effrayés ont toutes les caractéristiques d'une phobie incontrôlable. De quoi Tom a-t-il peur ? D'un simple bonbon au miel ? Des souvenirs atroces me reviennent. Ils ont le goût sucré d'un piège d'été. Est-il possible que Tom et Esteban aient tous les deux croisé les mêmes prédateurs ?